Bonjour à tous
Bonjour.
et merci pour ce moment que le Seigneur nous accorde pour nous exhorter et surtout nous penser à l'Église persécutée dans nos prières et aussi tirer des leçons par rapport à cette Église qui est persécutée pour nous aujourd'hui, afin de pouvoir continuer à marcher et à accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Et si vous n'entendez pas ou s'il y a des difficultés, n'hésitez pas de me signaler parce que ce matin, il y a des problèmes de réseau à notre niveau. Voilà, mais par la grâce de Dieu, on va essayer de voir si on pourrait aller jusqu'au bout. Est-ce que vous voyez l'affichage? OK. Nous allons lire le texte biblique et ensuite nous essaierons de développer, chercher à nous exhorter. Et par rapport à l'Église persécutée. Cette année, le thème, c'est Arrêtez et sachez que je suis Dieu, avec une prédication sur Matthieu 5, versets 10 à 12. Voilà, désolé parce que je n'ai pas reçu le paquet de la prédication comme les années précédentes. Donc, j'ai essayé de juste prendre le thème et les textes bibliques et essayer de développer afin de pouvoir nous exhorter les uns les autres. Voilà, si vous voyez que je ne suis pas le canevas, voilà, c'est juste pour cette raison. Lisons le texte, Matthieu 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi, ont été persécutés avant vous de la même manière. Matthieu 5, versets 10 à 12. Un jour, j'ai posé la question à un ami pasteur qui était dans un pays où il y a la persécution. J'ai posé la question à savoir si tu pouvais te projeter à 20 ans en arrière, avant cette persécution, en tant que pasteur, comment aurais-tu fait dans ton église, dans ta ville et dans ton lieu d'environnement de vie pour faire face à de telles situations que vous vivez? Et il m'a répondu en deux phrases. J'aurais préparé l'Église bien avant pour faire face à cette persécution parce que avant, on entendait que la persécution est très loin de nous. On pensait que c'était une persécution qui concernait les 10 pays les plus persécutés qui sont concernés. Et aujourd'hui, cette persécution vraiment nous a trouvés et a trouvé l'Église d'une manière démunie. Nous n'avons pas du tout préparé l'Église à cette situation, à cette éventualité. Et lorsque la persécution est venue d'une manière soudaine, vraiment les chrétiens étaient désarmés. Et là, en lisant ce texte, ce matin, c'est pour nous aujourd'hui, nous entendons la persécution des autres pays, les pays concernés, qui sont vraiment dans une situation difficile. Nous sommes en solidarité avec eux. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous nous préparons véritablement, sérieusement, si cette persécution arrivait chez nous, maintenant, aujourd'hui, est-ce que, quelle est notre attitude pour faire face? Et en essayant de se poser la question, nous voyons que Matthieu, le texte que nous avons lu, est un texte tiré du sermon sur la montagne que Jésus avait donné pour orienter vraiment l'enseignement de son royaume, pour donner une vision de ce qu'est véritablement son royaume. Et là, en se référant à ce texte, on voit que Jésus lui-même, sachant qu'il allait passer par des persécutions, des difficultés, préparait ses disciples en les disant que vous allez être haïs par beaucoup. Vous serez persécutés. Vous allez traverser des moments difficiles. Mais je serai avec vous quoi qu'il arrive. Je serai avec vous pour vous consoler. Je serai avec vous pour vous fortifier. Je serai avec vous pour vous donner le courage et la force de pouvoir faire face. En Matthieu 10, verset 22, c'est ce que Jésus vraiment veut dire à ses disciples. La persécution est quelque chose qui est inévitable. On peut prier pour que la persécution n'arrive pas. On peut prier pour que la persécution, oui, cesse. Mais dans tous les enseignements de Jésus, si nous remarquons, il nous dit clairement que nous devons faire avec. Parce que l'Église, dès sa naissance, a été rejetée, n'a pas été acceptée. Et le Seigneur veut nous faire réellement comprendre que l'Église doit faire face à toutes les persécutions qui peuvent venir sans broncher et rester dans la fidélité avec lui. Jésus avertit ses disciples que son Église traverseront ses souffrances sur le chemin de son royaume, comme lui-même a souffert et a subi la persécution à cause de l'Évangile, à cause de ce qu'il a décidé d'aller à la croix, de sauver le monde de son péché, comme Boul a parlé tout à l'heure du salut, du pardon des péchés par la grâce. Le Seigneur avait une seule mission, sauver le monde de son péché. Et Pierre va nous dire dans cette même logique, ayant reçu attentivement ces discours de Jésus sur la montagne et aussi dans d'autres enseignements, va interpeller l'Église de son temps en disant d'accepter de souffrir comme chrétien. Si nous souffrons comme chrétiens, de ne pas du tout avoir honte. Parce que souffrir comme chrétien, c'est-à-dire être attaché à Christ, accepter que le Seigneur est notre Seigneur et là où le Seigneur a passé, nous aussi, nous sommes heureux de passer par cette difficulté. Cette souffrance n'est pas une souffrance à cause de leurs mauvaises œuvres, mais juste parce qu'ils ont cru à Jésus, juste parce qu'ils ont voulu témoigner de l'Évangile et surtout dire que rechercher ardemment la justice dans ce monde. Donc, nous voyons que la souffrance n'est pas du tout attrayante, n'est pas du tout attrayante du fait que tout le monde, personne ne veut souffrir. Moi, le premier, je ne voudrais pas souffrir, J'aimerais toujours avoir une bonne santé, avoir un état vraiment confortable et aussi surtout avoir de la sécurité et ne pas du tout exposé à toute forme de souffrance. Mais Paul, ici, dans 1 Timothée, 2 Timothée 3, verset 11 et 2 Corinthiens 11, verset 30, nous dit que la souffrance est quelque chose, il se réjouit de sa souffrance. Paul se réjouit parce que sa souffrance est à cause de l'évangile, c'est à cause de Dieu. Et ensuite, il dit qu'il tire de la fierté dans sa faiblesse, dans son infirmité. Nous savons que Paul était vraiment touché dans son corps et Paul ne prend pas ça comme quelque chose qui n'est pas, qu'il va se lamenter dessus. Il dit, je tire de la fierté même dans mes faiblesses, même dans mon infirmité, dans ma souffrance. Je tire de la fierté parce que c'est pour Christ. C'est à cause de Christ qu'on m'a battu, qu'on m'a jeté des pierres, qu'on m'a fait passer de l'autre côté du mur et on m'a laissé tomber dans un panier. Et finalement, mon corps a été touché. Je me réjouis et je tire de la fierté à cause de cela. Donc, si la souffrance n'est pas attractive, quelle attitude devons-nous avoir face à la persécution et pourquoi? J'aimerais nous donner deux attitudes que nous pouvons avoir face à la persécution, que l'Église peut avoir comme préparation pour l'ensemble de ses membres face à la persécution, quelles que soient les formes de la persécution. La persécution peut être violente, physique, comme dans d'autres pays, et la persécution peut être aussi médiatique, peut être morale, peut être aussi dans des formes où souvent on ne sent pas qu'il y a une persécution, mais elle peut aussi venir d'une manière ou d'une autre. Des attitudes à avoir. La première attitude, c'est vivre la promesse que le Seigneur nous a donnée, vivre comme une réalité aujourd'hui pour nous. Et la deuxième attitude, c'est vivre comme une récompense. Ce n'est pas juste quelque chose qui va voilà, en arrivant, j'aurai la récompense, mais vivre cette récompense aujourd'hui. Si nous ne vivons pas cette récompense aujourd'hui, ça veut dire que nous allons tenter d'essayer d'oublier que nous avons une récompense qui nous attend au ciel. Quelle attitude faire face pour faire face à la persécution et pourquoi? Attitude 1, viser la promesse. Attitude de viser la récompense. Vivre la promesse. Pour nous, comment vivre la promesse? Parce que si nous relisons le texte, il nous dit clairement d'être heureux. Et là, c'est troublant quand Jésus dit, soyez heureux. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est persécuté, quelqu'un qui a tout perdu et le Seigneur lui dit, non, réjouis-toi. Et ce sentiment de joie dans l'épreuve, comment nous pouvons vivre ce sentiment de joie? Et laissez-moi nous interpeller aussi qu'en lisant le texte, les versets, tout juste les versets avant notre lecture, le verset 11 qui précède nous dit, le verset 10, même 10 à 11, nous dit que d'être des hommes de paix, d'être des enfants de paix, de rechercher la paix et tout juste après, Jésus nous dit qu'il y a de l'hostilité qui peut venir. Et là, ça peut être troublant de voir que la paix qui doit être recherchée dans l'hostilité. Jésus veut simplement nous dire que quels que soient nos efforts et de la recherche de la paix, il y aura toujours des personnes, des hommes qui seront toujours contre cette paix que Jésus veut donner, que Jésus propose au monde. Jésus veut nous avertir, quels que soient nos efforts pour rechercher la paix, il y aura toujours de l'hostilité. Et cette hostilité ne doit pas nous arrêter de rechercher la paix. Rechercher la paix, quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix à payer. Pour vivre cette réalité de la promesse, la première des choses, c'est de s'apprêter à souffrir pour sa foi. C'est une évidence. S'apprêter à souffrir pour sa foi à cause de ma foi, à cause de la conviction que j'ai que Jésus est Seigneur et Dieu et que Jésus est celui qui nous a sauvés, qui m'a sauvé, qui m'a donné la vie éternelle, je suis prêt à souffrir. C'est ce que 1 Pierre 4, verset 16 nous dit. Souffrir pour sa foi, ce n'est pas évident. Si nous voyons dans les pays où dire que je suis chrétien est égal à dire je peux mourir d'un moment à l'autre, ça nous laisse à réfléchir, à méditer. Comment la foi d'un homme, d'une femme, d'un enfant va lui exposer à la mort et à la souffrance. Toujours garder la faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu, comme 2 Timothée 1, verset 12 le dit, à 14 le dit. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Paul dit à Timothée, oui, c'est aussi la raison de mes souffrances. Paul est conscient que la cause de sa souffrance n'est pas pour une raison de ce qu'il se mêle de la vie de ce monde ou de ses actes, mais surtout de l'évangile et du ministère de la proclamation de l'évangile que le Seigneur lui a donné. J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qui m'a été confié jusqu'au jour du jugement. Paul souffre, mais il garde la faim et la soif de Dieu, la confiance que Dieu est capable de le délivrer, que Dieu est capable de l'amener jusqu'au bout, que Dieu est capable de nous soutenir malgré quelconque persécution jusqu'au bout, afin que nous puissions nous réjouir avec lui. Renoncer à toute attitude de contre-témoignage. Garder la promesse, c'est renoncer à toute attitude de contre-témoignage, parce que la persécution peut nous amener à faire des contre-témoignages par nos réactions, par nos attitudes, par nos façons de parler, par nos façons de faire face, nous pouvons faire en même temps des contre-témoignages. Quels sont ces contre-témoignages? Les contre-témoignages, c'est le fait de céder à la tentation de la vengeance. C'est le fait de céder à la tentation des murmures. C'est le fait de céder à la tentation de s'apitoyer sur soi-même. C'est de céder à faire semblant d'en éprouver du plaisir comme des stoïciens ou des masochistes. C'est la tentation aussi vraiment de fuir, d'abandonner la foi et aussi de renoncer à la foi Combien de personnes, dès que la persécution a éclaté, combien de chrétiens ont renoncé publiquement à leur foi en disant, je ne suis plus chrétien. Je ne suis si être chrétien, c'est exposer sa vie, sa famille et ses amis dans ces circonstances, je ne suis plus chrétien. Et accepter de dire oui à l'ennemi. Ne pas se venger comme des incroyants, ne pas murmurer comme des enfants, ne pas s'apitoyer sur soi-même, ne pas essayer de sauver la face en abandonnant sa foi et ne pas faire semblant d'en éprouver du plaisir comme des masochistes ou des stoïciens qui, pour eux, qui considèrent la souffrance comme quelque chose de bien. Et je vais prendre du plaisir à souffrir parce que c'est bien, juste parce que c'est bien. Non pas parce que la souffrance fait partie de notre foi, je souffre à cause de l'évangile ou à cause de ma foi, mais je souffre pas pour être bien. La bonne réaction, c'est réagir et bondir avec foi et avec amour, comme la parole nous dit. Réagir en bondissant de joie, en sachant que le Christ est en nous, son esprit est en nous, et en aimant celui qui est en face et qui veut persécuter. Même si nous perdons tout, sur cette terre, nous avons tout avec notre Seigneur, nous dit Actes 5, 41. Comme cela, cette parole nous dit, si nous perdons tout sur cette terre, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend au ciel. C'est pourquoi nous n'avons pas crainte, nous n'avons pas peur de souffrir à cause de l'évangile ou à cause de notre foi. Maintenant, la deuxième attitude que nous pouvons avoir, c'est de vivre la récompense. Non seulement nous vivons la promesse comme une réalité, mais aussi nous vivons la récompense comme une réalité. Ne pas perdre de vue la récompense. Trop souvent, lorsqu'on est dans la souffrance, dans la persécution, on peut perdre facilement de vue la récompense qui nous attend là-haut, la récompense qui nous attend auprès du Seigneur. Comment nous pouvons viser cette récompense? Donc, la première des choses que le Seigneur nous appelle à avoir, la première attitude, c'est de ne pas perdre de vue notre récompense. La récompense que le Seigneur veut nous adresser est une récompense qui est sûre et certaine. C'est-à-dire, cette récompense, c'est la vie éternelle avec lui. Sachant que, quelle que soit la souffrance à laquelle nous pouvons être exposés, notre récompense est sûre et certaine. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une blague. Ce n'est pas quelque chose qui semble être une réalité, mais qui ne l'est pas. C'est une assurance, c'est une conviction que notre récompense nous attend. Ensuite, la persécution et la souffrance comme signe d'appartenance. C'est parce que nous appartenons à Christ. C'est parce que nous appartenons à un Dieu vivant. C'est parce que nous appartenons à celui qui règne, qui siège et celui qui va venir. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous acceptons la persécution comme quelque chose qui nous identifie à Christ. Comme le Christ a souffert, nous aussi, nous nous identifions à sa souffrance. Nous nous identifions à la souffrance de Christ, à sa croix qu'il a portée pour nous délivrer. Ensuite, le troisième signe, c'est de manifester la miséricorde de Dieu malgré la souffrance. 1 Timothée chapitre 1, verset 16 nous dit, « Mais Dieu a été compatissant envers moi. Pour cette raison, Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui. » pour accéder à la vie éternelle. Paul dit clairement ici que sa souffrance n'est pas vaine. Sa souffrance, en même temps, manifeste clairement que Dieu est bon, que Dieu est patient, que Dieu veut sauver le monde, que Dieu veut amener les pécheurs à lui pour les accorder son salut, sa paix et sa grâce, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Manifester la miséricorde de Dieu dans un monde où nous sommes persécutés. Comment celui qui est persécuté recherche toujours à manifester la miséricorde de Dieu? Honnêtement, humainement, c'est difficile. Humainement, nous ne pouvons pas être persécutés, se sachant persécutés et en même temps recherchant le bien de la personne qui te persécute. C'est comme les autres textes bibliques qui nous disent, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, recherchez le bien de ceux qui vous font du mal. Et là, humainement, on peut dire c'est impossible. Mais par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit, par la force animée qui nous anime par le Saint-Esprit, nous pouvons dire oui et dire, Seigneur, c'est possible de prier pour nos ennemis, de les aimer, de les faire du bien, de rechercher à les faire du bien, quoi qu'il arrive. Et nous voyons dans les pays persécutés comment cet amour transcende toute la réalité humaine. Comment quelqu'un qui vient te faire du mal à cause de ta foi, tu réponds par l'amour, tu réponds par la miséricorde et la bienveillance envers cette personne. S'approprier des récompenses que le Christ nous réserve avec lui. La quatrième attitude, c'est de s'approprier des récompenses que le Christ nous réserve avec lui. Nous pouvons penser que les récompenses, c'est quelque chose qui va venir lorsque je vais venir, je vais aller devant mon Père. Mais c'est aujourd'hui. Nous avons ces récompenses aujourd'hui avec nous. Ces récompenses, ce n'est pas simplement dans le futur, après la mort. Mais même aujourd'hui, nous avons ces récompenses avec nous parce que c'est une assurance par le témoignage du Saint-Esprit. Comment nous approprions cette récompense avec nous. Nous sommes d'abord, avant tout, des enfants de la promesse connue de Dieu. Cette promesse est une réalité. Nous ne sommes pas des enfants d'un autre Père. C'est le Père céleste. Nous sommes ses enfants. Et il nous connaît. Il connaît chacun par son nom. Il connaît chacun par la situation spécifique qu'elle traverse. Le Seigneur connaît ce que tu vis. Le Seigneur connaît ce que tu as besoin. Le Seigneur connaît, oui, de qui, oui, il veut te faire devenir. Nous avons le témoignage et le soutien du Saint-Esprit. Romains 8 nous dit que nous ne sommes pas seuls face à la souffrance. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes comme dans le monde. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous avons son témoignage avec nous qui nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu et qui ne va pas nous abandonner. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous rappeler de cela et nous approprier réellement de cette réalité. Le Christ est avec nous. Le Christ est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous dans votre souffrance, dans vos difficultés. Et même quand la persécution éclate d'un moment ou d'un autre, nous pouvons dire, le Christ est avec nous. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti parce qu'il y a la persécution. Il n'est pas en train de nous amener loin de lui parce qu'il y a la persécution. Il est avec nous dans la persécution et il demeurera totalement et entièrement avec nous. Nous avons la promesse de la couronne de vie. S'approprier de cela, nous avons la promesse de la couronne de vie, nous dit Apocalypse 2, verset 10. Cette couronne, ce n'est pas une réalité que nous, quelque chose, une fiction, c'est une réalité parce que le Christ est auprès du Père, il est assis à côté de notre Père céleste. Et il intercède pour nous afin que ce jour vienne et que lorsqu'il va apparaître, que nous puissions être en possession de cette couronne de vie totalement. Nous avons la promesse de la couronne de justice. Nous sommes persécutés à cause de la justice. Une couronne de justice nous attend là-haut, auprès du Père. De Timothée 4 nous dit ceci. Nous avons aussi la promesse de la couronne de gloire. Nous avons aussi la promesse de la couronne d'honneur. Nous avons aussi la promesse de l'assurance que cette promesse, cette assurance, cette couronne est sûre et certaine. Elle ne perdra pas son éclat. La couronne n'est pas une couronne de ce monde qui va perdre l'éclat, qui va se détériorer. Tout ce que nous pouvons recevoir comme couronne dans ce monde est quelque chose qui va détériorer, qui va perdre l'éclat. Mais la couronne que le Seigneur nous réserve au ciel est une couronne qui ne va pas se détériorer. Il ne va pas perdre son éclat. C'est pour l'éternité. Et donc, si le Seigneur nous propose ces promesses-là et nous les approprions comme une réalité aujourd'hui, nous pouvons faire face à la persécution sans crainte parce que notre vie n'est pas simplement ici, bas, mais aussi éternelle avec notre Seigneur. Pour conclure, j'aimerais nous rappeler deux choses, deux attitudes à retenir. Quels que soient les temps que nous traversons, nous pouvons dire que la persécution est loin de nous. La persécution est en Afghanistan, en Iran, en Éthiopie, au Kenya, au Mali, au Burkina. On peut citer autant en Chine, mais ces attitudes nous préparent en toutes circonstances pour être en solidarité avec l'Église persécutée, mais aussi nous préparent nous aussi dans notre situation à être prêts à faire face à n'importe quelle persécution avec foi et avec amour. En solidarité avec l'Église persécutée, nous sommes appelés à tenir la promesse dans la persévérance, les yeux fixés sur Christ. Christ nous appelle à tenir la promesse, ne pas abandonner la promesse, ne pas dire que c'est trop doux et c'est trop douloureux, c'est trop dur pour nous, mais à tenir par la grâce de Dieu. Le soutien du Saint-Esprit qui est en nous va nous renouveler encore, nous fortifier, nous donner la force et le courage de dire nos yeux sont fixés sur Christ, quelles qu'en soient les conséquences et les circonstances qui peuvent venir. En solidarité dans la prière avec l'Église persécutée, nous sommes appelés à tenir la récompense dans la foi par la grâce et le soutien de l'Esprit. En solidarité avec l'Église persécutée, nous sommes appelés à continuer à être témoins de l'Évangile par notre vie dans la société en manifestant la miséricorde de Dieu à ceux qui sont dans la souffrance et dans le besoin. Que le Seigneur nous aide à vraiment nous cultiver ces attitudes-là en nous et qu'elles soient une réalité, nos convictions intérieures. Et quelle que soit la souffrance, la persécution que nous allons faire face, nous dire que réellement la promesse est là. Et nous dire aussi intérieurement que la récompense est là et que le Seigneur est avec nous au milieu de la souffrance, au milieu de la persécution. C'est ce que l'Église primitive a pu faire face à la persécution. En rappelant les promesses de Dieu, en rappelant les promesses et les récompenses de Dieu. L'Église primitive a pu faire face à la persécution en mettant sa foi en Christ, en répondant avec amour et aussi avec foi. Que le Seigneur nous aide à être en solidarité avec l'Église persécutée et aussi à nous préparer, à être une Église qui veille, une église qui prie, une église qui n'a pas peur d'aborder les thèmes de persécution, les thèmes de difficultés, de souffrances. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est en train de se morphoser en une Église qui se réjouit, en une Église qui cherche toujours au bonheur, qui cherche toujours à s'accommoder au monde, en cherchant toujours le confort et finalement en oubliant de l'autre côté qu'il y a la persécution qui est à côté. Et si nous ne nous préparons pas à cette réalité de la persécution, c'est comme l'ami m'a témoigné, si je pouvais me projeter 20 ans en arrière, j'aurais préparé l'Église à faire face à la persécution parce que nous avons pris tout notre temps à prêcher l'évangile social, à dire vous allez avoir des maris, vous allez avoir des femmes, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir des voitures, vous allez avoir ceci, cela pour avoir une vie confortable. Mais en oubliant que l'Église est dans le monde et doit résister à toutes les aléas et que le monde et que l'ennemi attaque l'Église. Que le Seigneur nous aide pour et nous encourage de redoubler d'efforts et de nous préparer spirituellement pour faire face quelles qu'en soient les circonstances. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes d'être en solidarité avec l'Église persécutée. Nous voyons que l'Église est persécutée dans d'autres pays d'une manière violente. Des églises sont fermées, des chrétiens sont massacrés parce qu'ils tiennent les valeurs de l'Évangile. Ils tiennent la foi, leur foi comme une réalité et ils veulent vivre leur foi. Seigneur, nous voulons, éternel Dieu, être en compassion, en solidarité avec eux. Nous prions avec eux. Nous te demandons, Seigneur, de les encourager, de les renouveler par ton esprit, qu'ils puissent retrouver la sérénité, la victoire que toi-même tu as acquis à la croix pour vivre l'Évangile d'une manière authentique, quelle que soit l'adversité, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, oui, de les garder en toi, dans la fidélité doctrinale et aussi dans la fidélité, Seigneur, avec les frères et sœurs qui ne sont pas encore dans cette persécution. Seigneur, nous voulons aussi prier pour notre Église, notre Assemblée, Seigneur, et nous te demandons de préparer chacun avec cette attitude de garder la récompense et de garder la promesse, de garder, Seigneur, cette réalité que tu as promis à ton Église, d'être avec ton Église, oui, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu as promis aussi à ton Église de la soutenir par ton esprit, par ta force toute puissante. Tu vas l'aider, Seigneur, à traverser des crises, des situations difficiles humainement qui n'est pas possible. Mais avec toi, tout est possible, Seigneur. Nous voulons aussi te remettre, éternel, ton Église, d'encourager ton Église à tenir ferme et à tenir, oui, la récompense, les yeux fixés sur toi, Christ, et aussi sur la récompense que tu réserves à ton peuple, à tes enfants qui vont aller jusqu'au bout. Aide-nous à persévérer jusqu'au bout, à ne pas lâcher, à ne pas se décourager, à ne pas rester dans les murmures, à ne pas rester dans une situation de complaisance, dans la recherche du confort uniquement, mais aussi à nous préparer pour faire face à toute éventualité de persécution ou des difficultés que nous pouvons traverser. Que ton nom soit béni et glorifié, que toute la gloire te revienne, que ton esprit réveille ton Église, ton esprit, Seigneur, fortifie ton Église, ton esprit, oui, donne de la foi et de l'amour pour répondre avec foi et amour, oui, face aux ennemis, face à la persécution, face à tout cela qui assaille l'Église d'une manière ou d'une autre pour la faire taire. Que ton nom soit béni et glorifié et que ta parole soit proclamée d'une manière audible, d'une manière visible et d'une manière certaine dans ce contexte difficile que tous les pays traversent. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.
Amen.